Je vous demande un tout petit moment d'attention. On va commencer la cérémonie dans un tout petit moment. Je vous demanderai de faire silence au moment où les reliquaires vont entrer. Je vous remercie. À tout de suite.
La famille,
on va baisser.
La famille.
Voilà. Non, passez là,
Bien, Madame la Ministre. Grand chef Berger Kawa, monsieur le directeur général, les membres de la famille, mesdames, messieurs, nous allons commencer la cérémonie. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos portables. Cette cérémonie va se dérouler en deux temps ici, et puis ensuite nous sortirons. Nous aurons d'abord quatre discours. Le discours du directeur général, monsieur Thomas Grenon, qui sera suivi du discours de Géry Delatière, qui est un historien de Nouvelle-Calédonie, qui sera ensuite suivi du discours du grand chef Berger Kawa, puis de celui de la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Angevin. À la suite de ces discours, nous aurons un échange coutumier avec les familles, et puis nous sortirons. Ceux qui souhaitent se recueillir sur les reliquaires pourront passer devant tout à l'heure, avant qu'on aille tous ensemble planter un arbre. Cet arbre est un orme, et donc nous demandons à la presse qui veulent avoir des interviews de les faire près de l'arbre où nous serons tout à l'heure, donc près de la serre de la Nouvelle-Calédonie. Donc là maintenant je vais laisser la parole au directeur général du muséum qui accueille cette cérémonie, monsieur Grenon.
Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les membres du Sénat coutumier, grand chef Berger Kawa et membres des clans, mesdames et messieurs, nous voilà aujourd'hui réunis pour la cérémonie du retour en Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef Attaï et de son compagnon dit le sorcier, tous deux tués le 1er septembre 1878, il y a maintenant 136 ans. Ce moment, beaucoup d'entre nous l'attendent depuis longtemps, depuis très longtemps. Il ne laisse personne indifférent. Ce moment parle de dignité humaine, mais aussi de vie éteinte au combat, sans sépulture, de violence, d'incompréhension. Ce moment de respect, de recueillement, est aussi le moment d'un deuil qui n'est pas clos. C'est également un moment significatif de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de notre pays. Je suis très heureux que le muséum puisse y contribuer. C'est pour préparer ce moment important que je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie en novembre dernier. J'y ai rencontré le Sénat coutumier, que je voudrais remercier à nouveau ici, chaleureusement, pour son aide. Invité à Petit Coulis, sous la Grande Case, par le grand chef Berger Kawa, que je salue de nouveau, je lui ai assuré que le muséum ferait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter le retour des restes du grand chef Attaï et de son compagnon en Nouvelle-Calédonie parmi les siens. Je suis particulièrement fier et ému de pouvoir tenir parole aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de retracer la vie et les circonstances de la mort du grand chef Attaï et de celui qui l'accompagnait. En revanche, au nom de l'institution que je représente, je me dois de revenir sur leur histoire post-mortem, car leurs restes reposent depuis 135 ans dans les collections de la Société anthropologique de Paris, mises en dépôt au muséum il y a maintenant 60 ans. Recueillies par le docteur Navarre, médecin de marine, les têtes du grand chef Attaï et de son compagnon sont envoyées à Paul Broca, membre de l'Académie de médecine et président fondateur de la Société anthropologique de Paris. Fondateur mondial de l'anthropologie physique, célèbre pour sa découverte du centre du langage dans le cerveau, qui est désormais d'ailleurs nommé l'aire de Broca, il concentre ses recherches sur ce qui, selon lui, distingue l'homme, son cerveau. À cette époque, les anatomistes s'aperçoivent que l'Européen, sur lequel ils font l'essentiel de leurs travaux, ne saurait représenter l'humanité entière. Il n'est donc pas étonnant dans ce contexte, et même si cela peut nous choquer aujourd'hui, que certains médecins de marine qui servaient dans les troupes coloniales, et dont certains d'ailleurs suivaient les instructions rédigées par Paul Broca lui-même, aient collecté des ossements pour le recueil d'observations anthropologiques. Ainsi, en octobre 1879, au cours d'une séance de la Société d'anthropologie de Paris, Paul Broca présente les deux têtes de la façon suivante. Je cite. Après le combat, leurs têtes furent coupées, ainsi que la main d'Attaï, et apportées comme des trophées au camp français par les auxiliaires indigènes. Ce fut ainsi qu'elles furent mises à la disposition de M. Navarre. Et il poursuit. La magnifique tête du chef Attaï attire surtout l'attention. Elle est très expressive, le front surtout est très beau, très haut, très large. La tête d'Attaï, moulée par Félix Flandinette, est ensuite décharnée pour étudier le cerveau. Les crânes, entrés dans les collections de la Société anthropologique de Paris, sont conservés à la chapelle des Cordeliers de la Faculté de médecine de Paris, puis transférés au Musée de l'Homme en 1951, un des sites du Muséum national d'histoire naturelle. Les deux crânes, sur lesquels figurent des inscriptions nominales, ont été authentifiés formellement, contrairement à ce que l'on peut entendre d'ailleurs ici ou là, non seulement grâce à la traçabilité de nos collections, mais aussi sur des critères médicaux, légaux et anthropologiques. Ainsi, par exemple, le crâne d'Attaï, soumis à une confrontation par méthode de scanner en trois dimensions, présente un ajustement parfait avec le moulage du visage. Les crânes du chef Attaï et de son compagnon, conservés par les anthropologues, n'ont jamais été exposés au public et, contrairement à ce que l'on a pu affirmer, ils n'ont jamais été perdus. Le muséum conserve avec soin, avec respect, une des plus grandes collections de restes humains au monde. Elle permet aux chercheurs du monde entier, grâce à la diversité anatomique de l'espèce humaine, de mieux comprendre nos adaptations à l'environnement, l'histoire évolutive de notre espèce, l'histoire de nos migrations. Le moment est donc venu, comme s'y était engagé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en juillet 2013, que le chef Attaï et son compagnon regagnent la terre de leurs ancêtres. Le muséum est honoré et ému de contribuer, à travers ce retour, à clore une page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je souhaite que ce moment nous aide aussi à écrire la page ouverte aujourd'hui.
Merci, Monsieur Grenier. Monsieur Géry de Latière, qui vient de Nouvelle-Calédonie et qui vit donc dans la région de la Foix, et va vous retracer la vie d'Ataï en quelques minutes. Merci, Géry.
Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les coutumiers, monsieur le directeur du muséum, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous sommes ici à Paris, en terre de France, pour venir chercher les restes du chef Ataï et les ramener dans sa terre natale. En pays Thierry, non coutumier de la région de la Foix, Moindou Saramien Farino, situé sur la côte centre-ouest de la Grande Terre, Ataï faisait partie d'un grand clan Kanak, un clan suzerain, clan chef dont la tenure foncière avant la colonisation s'étendait sur plusieurs milliers d'hectares de terre. Au sein de cette entité clanique, Ataï occupait la fonction de défenseur de la chefferie, de gardien, ce que les Européens ont désigné par le nom de chef de guerre. En temps de paix, son rôle dans la structure coutumière originelle de son clan était secondaire et il ne détenait que le pouvoir de police sur ordre de la grande chefferie alors détenue par le lignage Kahawa, dont vous avez ici un digne représentant en la personne du grand chef Kahawa Berger. Mais en temps de guerre, le grand chef délègue ses pouvoirs et se met en retrait, un peu comme un général en temps de guerre dans une société moderne. Ainsi, et selon ce principe, en 1878, Ataï s'est retrouvé en première ligne face à l'intrusion européenne sur les terres ancestrales de son clan. Car, même si des causes plus conjoncturelles ont été maintes fois énoncées par les historiens pour expliquer le dramatique soulèvement kanak de 1878, sécheresse, bétail des colons, réquisition abusive de main-d'œuvre pour les chantiers coloniaux, la cause majeure et fondamentale de l'insurrection a bien été la possession de la terre. 1878, au travers des délimitations des terres kanak, des dépossessions, du cantonnement des clans en des espaces restreints, c'est avant tout le refus du kanak de perdre son identité, de perdre son âme. La terre, pour les kanaks, revêt une importance capitale. À la valeur nourricière qu'elle détient dans leur société essentiellement agraire, s'ajoute une dimension affective et mythique fondamentale. La terre n'est pas uniquement le moyen de subvenir à l'alimentation du clan, elle est avant tout une matrice source de vie. D'elle est venue toute vie, végétale, animale et surtout humaine. Toute humanité est issue de son sein. Elle est le lien qui unit les vivants et les morts. Elle s'identifie aux terres originelles à la naissance du clan. Ce même terroir originel, rassemblant défunts et vivants, totems et pierres magiques, autels et bois sacrés, mais aussi les plantations et les cultures nourricières, constituent un espace de sérénité, d'équilibre psychologique, une confusion du sol mythique et du sol nourricier, ce que Maurice Léonard appelle le séjour paisible. Le Kanak s'y sent libre, rassuré, sûr de lui. Chassé de ce tertre pour une quelconque raison, il est un être parfaitement vulnérable, un déraciné. Dépossédé de son tertre clanique, de son terroir natal, le Kanak perd ainsi son identité. Oui, on peut dire que la terre Kanak est source d'identité. Ce sont ces valeurs qui ont été âprement défendues par les insurgés de 1878. Ce sont pour ces fondamentaux qu'Ataï, en tant que gardien et protecteur du clan, a donné sa vie le 1er septembre 1878. Cette insurrection a pris naissance le 25 juin 1878 par l'attaque de la gendarmerie de la Foix, centre de colonisation pénale situé sur la côte centre-ouest de la Grande Terre. Le conflit s'est ensuite étendu aux régions voisines de Bouloupari, de Thiot, de Moindou, puis ensuite, toujours sur la côte ouest, Bouraï, Pouya, jusqu'aux confins de Koné. Il a mis progressivement en jeu des réseaux d'alliances claniques, notamment sur la côte ouest de la Grande Terre, des alliances qui ont impliqué des clans entiers dans la lutte à mort qui s'engageait alors contre le spoliateur. Ce sont ces mêmes réseaux, ou tout au moins ce qu'il en reste aujourd'hui, qui ont été sollicités pour préparer le retour des restes d'Ataï dans son pays. Parmi les nombreuses crises qui ont opposé les Kanaks aux colonisateurs, Ce conflit de 1878, par le nombre de victimes, a certainement été le plus sanglant. Les historiens ont estimé à 200 le nombre d'Européens alors tués, colons, concessionnaires pénaux, gendarmes et militaires, et à plus de 1000 le nombre d'insurgés kanaks tués. Archétype de la guerre coloniale française, la répression de 1878 se caractérisera par une guerre de razzias, de raseurs de villages, de cultures incendiées et détruites afin d'affamer les rebelles. Elle s'achèvera sur la disparition de clans entiers et par la déportation de centaines d'insurgés survivants ou de tribus rebelles. Cette crise connaîtra également des sommets avec la mort tragique du colonel François-Eugène Galipas-Bock, alors commandant militaire de la colonie, c'est-à-dire le plus haut gradé qui était en poste, et également plus jeune colonel d'infanterie de l'armée française, tué de 2 balles le 3 juillet 1878 au lieu-dit Montagne Rouge, au sud de l'actuel village de La Foy. Elle se traduira également par la mort d'Ataï, encerclée avec son fils et son sorcier, le 1er septembre, par une colonne d'auxiliaires. À cette fête tragique s'ajoutait une humiliation suprême, la décapitation et, selon la tradition orale recueillie, l'ablation de la main droite. Le retour des restes d'Ataï en Nouvelle-Calédonie constitue avant tout un geste fort du gouvernement français envers son clan, mais aussi envers l'ensemble du peuple kanak et des Calédoniens en général. Il permet un rééquilibrage de la mémoire, car jusqu'à présent, les seuls édifices publics commémorant cette tragédie de 1878 se situaient du côté du vainqueur de la rébellion. Je vais parler du monument dédié à la mémoire du colonel Galipas-Bock à La Foy et, en plein cœur de Nouméa, de la statue du gouverneur Olry, gouverneur qui dirigea la répression de 1878, édifice situé face à la mairie de la capitale au sein du square du même nom. Mais ce retour constitue aussi et surtout une reconnaissance au plus haut niveau de l'État de la tragédie qui s'est opérée en 1878 et des conséquences que celle-ci a amenées. Enfin, à la lecture du préambule de l'accord de Nouméa, ce geste permet d'éclairer une zone d'ombre du passé colonial de l'île. Aujourd'hui, l'histoire de 1878, celle d'Ataï et des tribus alors exterminées, mais aussi celle du colonel Galipas-Bock, des militaires, des familles de colons massacrés et de toutes les victimes de cette tragédie, constitue un pan de l'histoire commune des Néo-Calédoniens que ceux-ci doivent accepter et regarder en face à l'heure où le pays veut se tourner vers un destin commun. Je vous remercie.
Merci, Géry de la Thière. S'il vous plaît, je vais donner maintenant la parole au grand chef Berger Kawa. Allez-y, grand chef.
Madame la ministre, tout d'abord en tant que croyant et pratiquant, je rends grâce à Dieu d'avoir choisi ce jour afin que nous puissions enfin nous rencontrer et partager ce moment exceptionnel. Je ne vous cache pas, je suis ému car j'ai attendu ce moment depuis de longues années. Bien entendu, je commençais à désespérer de ne pas pouvoir assister de mon vivant au retour de mon aïeul. Car après plusieurs tentatives, demeurées vaines malheureusement, auprès des instances politiques et institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie et de la métropole, j'ai fini par baisser les bras et à me résigner à cette triste fatalité. Et la rumeur selon laquelle le khan d'Ataï avait été perdu n'était pas non plus de nature à encourager toute tentative de recherche. Une rumeur malheureuse propagée à travers la déclaration officielle de M. Christian Estrosi, ministre de l'Outre-mer à l'époque de ma première requête. Mais la province divine a voulu que les choses se passent autrement, car en 2010, ma grande surprise et à la surprise générale, Didier Danin, journaliste d'investigation à l'AFP, déclare dans le journal Le Monde avoir retrouvé le crâne d'Ataï au Musée de l'Homme. Déclaration faite au moment où la France retroussait les têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Évidemment, d'après les fonctionnaires du Musée de l'Homme, le crâne d'Ataï n'a jamais quitté les réserves du Musée de l'Homme. C'est la raison pour laquelle, avec le concours de Warawi Wayanes, qui est l'artiste kanak ici présent, ainsi que le concours de son frère Gilles Wayanes, nous avons constitué le premier collectif d'Ataï et déployé nos premières banderoles devant le Sénat coutumier. À la date du 24 septembre 2010, pour réclamer le retour de la tête d'Ataï. Nous n'étions que trois Kanaks à braver la date du 24 septembre, date de l'anniversaire de la prise de position du pays Kanak par la France en 1853. Une date transformée en journée festive de la citoyenneté par le gouvernement local. Mais quelle citoyenneté, Madame la Ministre. Mon passeport est toujours français. Alors que l'accord de Nouméa n'était censé m'attribuer une nationalité kanak à travers le transfert de souveraineté. Et je rappelle à ce sujet que la France a signé en 2007 la charte de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Et si nous sommes à Paris en ce moment pour recevoir les reliques d'Ataï et de son sorcier, c'est également grâce à cette charte de l'ONU. Alors, Madame la Ministre, pourquoi tant d'intrigues autour de la disparition d'Ataï? En tant que croyant, je pense que la justice divine demeure souveraine bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et elle s'est manifestée en faveur des descendants d'Ataï. Dieu a exaucé nos prières. Car là où parfois la morale des hommes faille ou la mémoire des hommes fait défaut, il y a toujours une étoile divine qui se met à briller dans la pénombre des esprits. Madame la Ministre, même si je savoure avec plénitude ce moment privilégié qui m'est offert d'assister, cela n'empêche pas le sentiment d'indignation que j'éprouve vis-à-vis de la fausse rumeur propagée par M. Estrosi comme un représentant de l'État. Ministre de surcroît, peut-il avoir une attitude aussi désobligeante et irrespectueuse envers le peuple kanak? Le fait de recevoir ces reliques, me met également mal à l'aise, car ces reliques nous renvoient, vous et moi, à notre propre réalité, qui est celle de deux mondes, de deux cultures, de deux peuples qui, au gré des courants de pensée, n'ont cessé de s'affronter et qui, malheureusement, s'affrontent encore aujourd'hui à travers les enjeux purement économiques et géopolitiques. une réalité historique et coloniale, certes cruelle et barbare, mais face à laquelle nous ne pouvons pas, nous ne pouvons, vous et moi, nous dérober. Un passé douloureux qui ressurgit soudain et qui couvre et qui rouvre, ne serait-ce qu'en cet instant solennel, des cicatrices centenaires, encore vives et qui peut-être ne peuvent se refermer à travers un long processus de pardon et de réconciliation, ou encore à travers un exorcisme particulier pour extirper ce mal récurrent, enfoui dans notre histoire commune et qui, tel un volcan, peut exploser à tout moment, ou encore un remède moral, psychologique de taille à la mesure de l'ampleur de la maladie, tant le traumatisme est profond. Un traumatisme auquel s'ajoutent d'autres tragédies plus récentes, comme celle d'Éloi Majoraux et de Marcel Nonaro, et de Jean-Marie Tibaou, de Yewene Yewene, et bien d'autres encore. Même si dans le préambule de l'accord de Nouméa, la France reconnaît ses torts et reconnaît avoir signé des actes unilatéraux, ces accords écrits ne pouvaient, à mon grand regret, ni prévoir, ni même imaginer l'émotion intense et l'angoisse indescriptible que je ressens actuellement face à ces reliques. Et croyez-moi, Madame la Ministre, ce n'est pas chose aisée de vivre cette expérience douloureuse chez l'étrange impression de me propulser 136 ans en arrière et d'être le témoin de cette tragédie. Et je me pose la question, mais où est la place de l'homme dans le pays des droits de l'homme? Mon esprit est habité à la fois par la joie, d'une part, et celle de retrouver enfin une des pièces manquantes de notre grande famille, mais aussi la tristesse et la colère, car dans cette tragédie, le pays qui l'a payé au prix fort de son opposition à la colonisation. Un pays qui, dévasté par la plupart des habitants, ont été dispersés vers d'autres régions de la Nouvelle-Calédonie. D'autres ont été déportés vers d'autres îles du Pacifique. Le pays Kini, jadis très peuplé, est aujourd'hui habité par un groupuscule de colons disposant de milliers d'hectares pour faire paître leur bétail, alors que la plupart des Kanaks sont encore confinés dans les régions caillouteuses, à flanc de montagne. Madame la Ministre, ni les accords de Matignon, ni les accords de Nouméa, ni l'usine du Nord, ni les usines du Sud, n'ont réduit ces injustices. Le peuple kanak est à l'heure actuelle un peuple non seulement désabusé, mais surtout sinistré de son propre pays. Lorsque j'étais sénateur coutumier et président de la commission foncière, j'avais pu accomplir un début de restitution de quelques hectares de terre aux Kanaks dépossédés. Mais très vite, je me suis heurté à l'opposition féroce du gouvernement local quant à la restitution des terres spoliées du territoire de Tchini. Un gouvernement à majorité anti-Kanak, comme celui que nous avons aujourd'hui, et qui a usé de son pouvoir pour non seulement m'empêcher de reprendre mon bien spolié, mais surtout de m'exclure du Sénat coutumier. Alors que c'est mon droit le plus légitime et le plus fondamentale d'y siéger en tant que dignitaire de mon pays. Et cela me révolte de voir que le Sénat, coutumier, parasité par des politiciens déchus, en quête de reconnaissance, comment peut-on vouloir la paix alors que les droits fondamentaux des chefferies kanak sont bafoués et foulés au sol? Tout cela doit cesser, Madame la Ministre, car il vous incombe de faire respecter la charte sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'ONU. En tant qu'un grand chef et représentant légitime du pays guinéen, je m'adresse à vous, Madame la Ministre, et à travers vous, je lance un appel au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République en leur demandant la restitution du territoire Tini à ses habitants, chassés jadis par l'État français. Car ni les multinationales, ni le gouvernement local actuel de Nouvelle-Calédonie ne peuvent se substituer à ceux qui relèvent moralement et fondamentalement de la responsabilité de l'État français. Nous avons été spoliés par l'État français, par conséquent, c'est l'État français qui doit nous rendre notre bien. Il est de mon devoir moral, au nom des clans que je représente, je vous exprime de vive voix cette requête. Je n'aurais jamais cru que de mon vivant j'aurais à assumer une telle responsabilité, mais Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est la raison pour laquelle je crois fortement que c'est ma conviction la plus profonde et que le retour d'Ataï doit s'accompagner du retour au pays des habitants de Tieni. Il est grand temps que cesse cet exil forcé depuis 136 ans. Car à travers ce grand retour, nous désirons fermement mettre en place la 9e ère coutumière et ainsi nous réapproprier notre espace spécifique tant sur le plan identitaire que sur le plan linguistique. Merci Madame la Ministre pour ce geste fort. Cependant, Madame la Ministre, je tiens à vous présenter mes excuses si mes propos peuvent vous paraître désobligeants ou sévères, mais la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la société kanak me pousse à exprimer mes inquiétudes et mes réflexions. Même si l'histoire d'Ataï est pour bon nombre de personnes une période sombre de l'histoire coloniale qui n'est pas belle à raconter et qui ne fait pas honneur à la patrie des droits de l'homme. Ma famille ainsi que tous les clans que je représente essayent depuis plusieurs générations de l'assumer tant bien que mal en toute dignité, que le respect de la mémoire de toutes ces vies sacrifiées, des vies sacrifiées au nom d'une vision idéologique restreinte de l'humanité qui s'opposait à la fois à la vision judéo-chrétienne et aux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a plus d'un mois, la France a célébré le 14 juillet la date de la Révolution française contre la monarchie. La raison majeure de cette révolution, les historiens l'attribuent à la famine qui a touché l'ensemble des Parisiens. Voyez-vous, Madame la Ministre, c'est aussi la famine qui a poussé le chef Ataï à se révolter contre le pouvoir colonial à l'époque, car le bétail affamé par la sécheresse dévastée de plusieurs mois les cultures vivrières, privant ainsi les familles kanak de nourriture. Le 18 juin dernier, la France a célébré l'appel du général de Gaulle. Non, je vous dis, regardez cette photo, Madame la Ministre. Photo de Brahino Cyprien Kawa. Il s'agit de mon père regretté. Brahino Cyprien Kawa qui, au péril de sa vie, a combattu les nazis au Moyen-Orient et sur le front italien. Il faisait partie des engagés volontaires au sein du bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été décoré à Paris par le général de Gaulle en tant que compagnon de la libération lors du défilé des Champs-Élysées. Il est également, grâce à sa bravoure et au courage de tous ses soldats de l'outre-mer français, que le général de Gaulle prononça cette fameuse phrase dans son discours historique à Brazzaville. Je ne puis admettre que des hommes ayant combattu à nos côtés ne puissent pas avoir les mêmes droits que nous. Et c'est ainsi que naquit l'article 75 de la Constitution de 1958, qui accorde à toutes ces populations d'outre-mer le statut de citoyen de la République de statut particulier. Un statut local et une citoyenneté gagnée chèrement par le prix de sang. Dans la Bible, il est prescrit de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Il est écrit également, tu ne voleras point et tu ne tueras point. Dans le préambule de l'accord de Nouméa, la France reconnaît avoir signé des actes unilatéraux lui permettant de prendre position par la force le pays kanak. En signant l'acte de prise de position, aux côtés de l'amiral Février Despointes, le 24 septembre 1853. Les missionnaires catholiques Maris se rendirent complices à la fois d'une violation d'un principe fondamental de la Bible, mais également d'un plan diabolique qui allait décimer la grande majorité des peuples kanaks. Il s'agissait en fait d'un plan d'extermination établi par les grandes nations occidentales à l'époque, visant à éradiquer la présence autochtone dans le but d'installer les colonies de peuplement européen sur les zones conquises. Ainsi, le traité de protectorat signé le 1er janvier 1844 entre la France et les chefs souverains du pays kanak d'Opao. Traité signé avec le consentement moral des missionnaires Maris n'était qu'un prétexte pernicieux destiné à amadouer et à piéger les kanaks pour les entraîner vers le diabolique destin. Une extermination qui a vu la disparition totale du peuple indigène de Tasmanie, dont la dernière rescapée du nom de Tringanini est désespérée d'un désespoir en 1876, c'est-à-dire 2 ans avant la révolte d'Ataï. Cette tragédie a-t-elle suscité le réveil d'Ataï? À mon avis, je suis convaincu qu'il y a un lien profond et incontestable entre ces événements, puisque le gouverneur Galipas-Bok déclarait à l'époque « Je viendrai en bout des Kanaks comme l'ont fait les Anglais en Tasmanie. En 1902, lorsque le pasteur Maurice Lénard débarqua dans notre territoire, le gouverneur de l'époque lui dit « Pasteur, mais que venez-vous faire ici ? Dans 10 ans, il n'y aura plus de canap. » Cette idée de voir disparaître la population kanak, comme celle de Tasmanie, a certainement été la raison majeure qui a pesé sur la prise de conscience de l'imminence et l'effroyable danger d'une prise de conscience non seulement suscitée par la position de Louise Michel et des communards en faveur de la protection des kanaks, mais également alimentée par des informations circulant à travers les navires santaliers, baleiniers et autres navires marchands provenant d'Australie et de Tasmanie. Le chef Attaï s'est battu avec l'énergie du désespoir, car il savait que ses guerriers ne pouvaient pas tenir longtemps contre l'armée française. Il a tenté le tout pour le tout, pour sauver le peuple kanak de la disparition. Nous, les kanaks, nous revenons de très loin, et tout cela grâce au sacrifice suprême d'Ataï. Ataï savait parfaitement que le bétail qui ravageait ses cultures vivrières et le laxisme des autorités coloniales étaient des actes prémédités destinés à prendre en tenaille entre le fort de Fonwari, la foi, et Napoléonville, Canala. Ataï n'avait pas d'autre choix que de réagir vite et violemment. C'est la raison pour laquelle le déclenchement de sa révolte a surpris le pouvoir colonial et déstabilisé le dispositif militaire. On ne devient pas suicidaire pour des broutilles. La détermination suicidaire d'Ataï a été suscitée par la prise de conscience de la menace effroyable d'extermination qui pesait sur le peuple kanak. Et pour preuve, l'extermination des Amérindiens d'Amérique, du Mexique et des Caraïbes, ou des aborigènes d'Australie, sont autant d'exemples qui démontrent la pratique générale du génocide dans une offensive de conquête. Et les Kanaks, malheureusement, n'échappent pas à la règle. Par conséquent, la révolte d'Ataï, outre l'aspect foncier du conflit démontré d'une manière simpliste par certains historiens, est en réalité une réaction de légitime défense face à la menace d'une extermination insidieuse et préméditée, instaurée par les grandes puissances occidentales, une politique d'extermination qui a continué sous l'instauration du régime de l'indigénat et qui n'a pris fin qu'au lendemain de la guerre de 1939-1945. Madame la ministre, à l'instar de Vincent Storix, face à l'armée roumaine, l'instar de De Gaulle face aux nazis, peut-on moralement reprocher au chef Ataï de s'être opposé à la spoliation de ses terres et à l'extermination de son peuple? Le chef Ataï n'a fait que son devoir de dirigeant responsable et de père de famille qui n'a fait que défendre un droit fondamental humain, un droit qui pourtant était déjà inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Savez-vous et souvenez-vous que les hommes naissent égaux en droit, et que cette égalité d'un droit ne s'adressait qu'à l'homme occidental. C'est une question que je me pose car la pratique de l'esclavage et a tout de même perduré malgré ses grands principes édictés. Malgré la dureté de cette tragédie qui a frappé notre région, le pays Guinée, du grand chef Ataï, s'est relevé de ses cendres et a su transcender le mal dont il était victime à travers l'engagement patriotique de ses descendants. Et cela s'est traduit par l'accomplissement de deux actes héroïques majeurs. Premier acte, c'est l'engagement des Kanaks dans le premier conflit mondial en 1914-1918, aux côtés de la France. Un conflit dont la commémoration du centenaire a été célébrée le 4 août de cette année. Et le deuxième acte, c'est l'engagement des Kanaks dès l'appel du 18 juin du général de Gaulle pour combattre l'invasion nazie pendant la guerre de 1939-1945. Madame la ministre, nous avons su transcender le mal subi par le bien en combattant aux côtés de la France pour la liberté du monde. À travers ces actes de patriotisme, nous avons su pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le retour d'Ataï est le juste retour des choses. Un geste de reconnaissance, une récompense aux souffrances subies et aux services rendus à la nation des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté en référence aux accords de Matignon de 1988 et ceux de Nouméa en 1998, sur la nécessité fondamentale et sur le devoir moral envers les générations actuelles et futures de marquer ici même à Paris cet événement exceptionnel qui augure une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble ce retour tant attendu depuis 136 ans par le pays Kini et par le peuple Kanak, un retour attendu également par la jeunesse Kanak et calédonienne qui réclame le retour de son icône. Madame la ministre, je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant j'aurais ce privilège extraordinaire d'assister au retour de mon aïeul, et je pense qu'il s'agit d'un sentiment partagé avec l'ensemble du pays Kanak, car il s'agit bien d'un chef Kanak qui a avant tout sacrifié sa propre vie pour sauver le peuple Kanak de la disparition. Par conséquent, vous pouvez comprendre à quel point le peuple Kanak est attaché à ce personnage et qui est recevable, et redevable, et sans qu'il ne serait pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est de mon devoir moral de vous poser cette question fondamentale. Où se trouvent aujourd'hui les ossements du chef Ataï et de son sorcier? Cette question fondamentale, je la pose non seulement à vous, Madame la Ministre, mais également au Premier ministre, au Président de la République et également au peuple français. Ainsi que vous m'aidiez à clore ce passé douloureux. Et ce traumatisme qui, malgré les accords de Matignon et malgré les accords de Nouméa, nous affecte encore aujourd'hui, 136 ans après, la mort d'Ataï, la destruction du pays Kini. Encore une fois, Madame la Ministre, merci infiniment pour cette restitution. Mais cependant, Madame la Ministre, permettez-moi d'ouvrir un autre grand chapitre. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous faire part de mes grandes inquiétudes. contre la pollution de notre lagon suite à une série d'accidents fréquents survenus à l'usine de Val dans le sud de notre île. En tant que chef coutumier kanak et président de la Fondation Ataï, dont l'objet est également la protection de l'environnement naturel où vit le peuple kanak, il est de mon devoir de contribuer à protéger le pays contre toute forme de pollution chimique ou toute autre forme de destruction susceptible de provoquer des dégâts irréversibles sur notre environnement naturel. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame la Ministre, que notre lagon, avant toute autre chose, toute autre considération, et demeure notre garde-manger et notre mère nourricière. Et que c'est la raison pour laquelle nous sommes fermement déterminés à le préserver, même si cela doit, à l'exemple du chef Ataï, nous coûter la vie. Car il s'agit bien d'une question de vie et de mort pour la société kanak. Et malheureusement, 136 ans après la mort d'Ataï, l'histoire se répète. En effet, permettez-moi de vous interpeller, Madame la Ministre, sur la gravité de ce problème et éviter ainsi des situations extrêmes. Par ailleurs, il y a également autre chose qui me préoccupe profondément. Il s'agit de la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la jeunesse kanak. Jeunesse dans la Corne de Nouméa, était censé former par la prise de responsabilité, mais qui malheureusement a sombré dans le désespoir et la désillusion pour cause de non-respect du rééquilibrage stipulé par l'accord de Nouméa. En fait, la jeunesse kanak est tout simplement victime d'un système éducatif discriminatoire complètement à l'opposé de l'esprit de rééquilibrage prôné par l'accord de Nouméa. Le rapport de l'ONU rédigé par Chamsanaya, rapporteur spécial, est accablant car sur la formation de 400 cadres prévus par l'accord de Nouméa dans le cadre du rééquilibrage, on ne dénombre que 557 cadres moyens et supérieurs. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres. L'acte de non-respect de l'accord et l'échec scolaire des Kanaks est insupportable. Et le nombre de professeurs Kanaks sur les matières fondamentales est désespérément dérisoire. Outre le fait que l'effectif des professeurs Kanaks ne représente que moins de 10% du corps d'enseignants en Nouvelle-Calédonie. Ils font souvent l'objet de pressions, de dérisions ou d'humiliation lors d'un entretien au mois de février avec un groupe de manifestants kanaks. Le vice-recteur a déclaré que les kanaks ne sont pas intéressés au métier d'enseignement. Au métier d'enseignant. Et je refuse tout comptage ethnique alors que l'accord de Nouméa a fait l'objet d'une modification de la Constitution française dans un souci de permettre un rééquilibrage ethnique en faveur de la population kanak, sujet notamment minoritaire dans son propre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité la révocation du vice-recteur actuel ainsi que de son remplaçant par un vice-recteur d'origine kanak. Madame la Ministre, aujourd'hui nous sortons de l'accord de Nouméa et nous voyons déjà de nouvelles menaces se profiler à l'horizon, qui sont celles d'un peuple kanak à nouveau séquestré dans son propre territoire. Un peuple kanak dont la jeunesse sera exclue de l'épanouissement intellectuel du peuple kanak, complètement noyé dans une immigration massive et discrètement organisée par le peuple kanak dont le territoire sera complètement détruit et pollué par l'exploitation du nickel. Un peuple kanak pris en otage par des multinationales sans scrupules et par un gouvernement local de pacotille complètement corrompu. Ouais. Ok. Madame la ministre, veuillez m'excuser pour mes propos qui peuvent paraître rudes, mais en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les clans kanak que je représente, il est de mon devoir de vous exprimer en toute franchise et en toute sincérité. Et je garde toutefois l'espoir, malgré les changements qui s'opèrent actuellement au niveau du gouvernement français. Et lorsque vous viendrez en Nouvelle-Calédonie en novembre, en compagnie du président de la République, Premier ministre, nous pourrons nous entretenir sur ces bases plus sereines. Encore une fois, merci Madame la ministre pour ces gestes forts qui vous honorent tout autant qu'il honore le peuple français. Vive la France et vive la Canada.
Grand chef, Madame la ministre, merci.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les membres du Sénat coutumier, grand chef Berger Karwa et membres des clans, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour un moment particulier, un moment qui, dans une vie, compte. Et effectivement, il s'agit de permettre au grand chef Ataï de retrouver sa terre natale et de pouvoir être honoré dans son pays. Précédemment, vous avez exposé ce qui s'est passé. Et effectivement, monsieur le grand chef nous a rappelé les souffrances et les tragédies qu'ont connues les hommes qui ont vécu à cette époque en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, nous sommes conscients de ce que le souvenir de ces moments tragiques pèse encore lourdement sur la réalité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et je comprends bien que vous ayez saisi l'occasion pour pouvoir dire tout ce que, avec un certain nombre d'autres personnes qui vivent sur cette terre, eh bien vous avez encore aujourd'hui sur le cœur et ce que vous voulez voir avancer dans la période qui vient. Moi, je vais simplement, pour répondre à cela très vite, dire d'une part que nous allons avoir toute une période qui s'ouvre où nous aurons à parler. Nous aurons à évoquer un certain nombre de choses, à avancer sur l'avenir, à avancer sur tous les sujets que vous avez évoqués, si nous voulons que la sortie de l'accord de Nouméa se fasse dans de bonnes conditions. Et comme je l'ai dit à Nouméa récemment, nous prendrons le temps qu'il faudra et nous ferons en sorte d'aller au fond des questions de discuter, de nous entendre pour que nous puissions bâtir à partir d'une histoire que nous savons tragique, bâtir pour ce pays un avenir que nous souhaitons être un avenir satisfaisant. Tout simplement pour répondre un peu et pour remettre cette restitution dans le cadre qui convient, bien, je rappellerai que ce qui a été dit dans l'accord de Nouméa et qui effectivement est significatif dans une journée comme celle-là et qui reconnaît beaucoup de choses. Dans ce préambule, qu'est-ce qu'on dit ? Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine. Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de populations dans lesquelles des clans Kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires. L'organisation sociale Kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l'ont déstructurée. La méconnaissance des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité, selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire. Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé. Les kanaks ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions. Autrement dit, une grande partie de ce que vous nous avez dit là, grand chef, était reconnue dans les accords de Nouméa tels qu'ils ont été écrits. Je veux aussi citer une phrase particulièrement symbolique aujourd'hui. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. Donc, cette cérémonie que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement un aboutissement longtemps attendu, elle est aussi, et c'est comme cela que j'interprète vos propos, un passage, l'ouverture vers un nouveau chemin partagé. Vous avez évoqué aussi dans vos propos la participation des peuples du Pacifique à la libération de la France lors des deux guerres mondiales. Je voudrais simplement ici ajouter que le président Hollande, le 15 août dernier, quand nous avons évoqué le débarquement de Provence, en a parlé et a rendu hommage à la participation des hommes de l'outre-mer, des outre-mer, et en particulier des hommes du Pacifique, à ces moments qui étaient importants. Et il a rappelé aussi que s'ils étaient venus pour défendre la France, c'était aussi parce qu'ils adhéraient aux valeurs de la République. Donc là encore, je dois dire que ce sacrifice que vous avez évoqué n'est pas méconnu et est présent dans les mémoires des hommes et des femmes de ce pays. Vous avez parlé aussi de décolonisation. Et je voudrais dire qu'effectivement, la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie est une étape durant laquelle nous sommes engagés. Et c'est pour nous le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et là encore, il s'agit de permettre au peuple kanak, le peuple premier, d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps et d'établir des relations nouvelles avec tous les autres, ceux qui sont venus parce que ce sont des victimes de l'histoire, mais aussi ceux qui sont venus ensuite enrichir ce territoire de leur intelligence, de leur talent, de leur travail. Par conséquent, aujourd'hui, lorsque l'État a voulu, conformément à l'engagement pris par Jean-Marc Ayrault, restituer à la Nouvelle-Calédonie les reliques de Ataï et de son compagnon le grand chef, c'était à la fois pour pouvoir rappeler une page d'histoire, mais c'était aussi, une fois que c'est soldé, pour nous permettre d'aller de l'avant et de bâtir aujourd'hui un avenir qui soit différent. Ataï est mort en combattant. C'était un guerrier. Il a combattu la France. Mais Ataï était aussi un homme. Il avait une famille qui l'a pleuré. Il avait des gens de ce clan qui le pleurent encore. Et tant qu'il ne sera pas rentré au pays, il est certain que le deuil pour tous ceux qui le pleurent ne sera pas fait. Ce retour maintenant est proche. Nous avons lancé aujourd'hui les cérémonies du retour. Et je tiens à saluer aujourd'hui la ténacité à la fois des gens de votre clan qui se sont battus pour que ce retour soit possible, mais je tiens à saluer aussi d'autres gens ici présents, notamment, je pense à l'écrivain Didier Denex, qui ont contribué à ce que ce retour soit possible. Et je tiens à saluer aussi l'action du muséum, de son directeur, de Madame Joanneau, dont chacun sait l'engagement pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens à saluer aussi le rôle du Sénat coutumier, qui a été un interlocuteur tout à fait patient et attentif. Et par conséquent, je crois que beaucoup de gens ici présents se sont battus pour que ce geste symbolique soit fait et pour qu'il soit fait dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, effectivement, nous ouvrons cette nouvelle période. Nous avons à sortir de l'accord de Nouméa. Nous avons à nous parler pour qu'on en sorte dans de bonnes conditions et en respectant tout le monde. Je crois que cette cérémonie marque le début de coutume de réconciliation. De réconciliation d'abord entre les clans, de réconciliation entre ceux qui ont souffert à un niveau ou à un autre dans cette colonisation de la Nouvelle-Calédonie. La réconciliation est un acte difficile, est un acte parfois douloureux. Mais je sais, parce qu'on a parlé, quand on s'est parlé en 88, juste après des événements qui étaient très douloureux, on s'est reparlé en 98 pour les accords de Nouméa, et à chaque fois, les personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie ont montré qu'elles sont capables de faire les gestes, de faire les démarches nécessaires pour que cette réconciliation soit possible. Et je vais rappeler une dernière fois ce préambule de l'accord de Nouméa, qui est le texte fondateur sur lequel nous nous appuyons. Et dans cet accord, il était dit « Les ombres des drames du passé doivent laisser aujourd'hui la place à la lumière de l'apaisement, de la dignité et du respect de l'autre, quelles que soient les différences. » Le monde kanak a à prendre toute sa place dans le chemin de la réconciliation. Il y a des drames et des problèmes d'aujourd'hui que vous avez rappelés et sur lesquels nous avons à travailler pour que l'égalité soit le fondement même de la vie dans ce pays. Mais je crois que nous y prendrons le temps. Et vous avez dit, je crois, dans Nouvelle-Calédonie, que c'était les Occidentaux qui avaient la montre, mais que vous, vous aviez le temps. Je tiens à vous dire que le temps, nous le prendrons. Je tiens à vous dire aussi mon humilité et mon émotion devant l'honneur qui m'a été fait aujourd'hui, d'être celle qui, au nom de l'État français, a permis au grand chef Ataï et à son compagnon de regagner leur terre natale. Je vous remercie tous. Et je sais que nous aurons encore des moments à passer ensemble pour avancer sur le chemin de la paix et de la réconciliation en Nouvelle-Calédonie. Merci.
Merci, Madame la Ministre. Maintenant, on va vous demander un tout petit instant. On va procéder à une cérémonie d'échange coutumier. Donc, je vous laisse mettre les choses en place. Madame la Ministre et Thomas Grenon, vous venez, on va se mettre là. Laurent.
Madame la ministre, d'abord avant toute chose, Dieu merci encore. Je voudrais au nom de toute la délégation et de la famille ici présente vous faire ce petit geste de remerciement pour le travail à laquelle vous êtes hein, depuis donner la force que vous avez et puis tout pour nous aider à rapatrier le corps du grand-père Ataï sur sa terre en Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous avez simplement un petit geste qui nous vient du cœur hein, pour vous exprimer nos remerciements et puis que Dieu soit toujours avec nous pour continuer à nous aider, nous guider, nous orienter dans le travail que nous aurons encore à faire dans le futur pour bien sûr, nos pays et nos futures générations de demain. Voilà ce que nous allons vous offrir, et puis encore avec tous nos remerciements, puis que Dieu vous bénisse dans tout le travail que vous avez encore à assumer. Voilà, merci.
Maintenant, vous pouvez aller planter l'arbre. 30 secondes. Allez, c'est bon. Merci. Donc, pour ceux qui souhaitent se recueillir un petit moment, vous pouvez passer donc devant les reliquaires. Madame la ministre, le grand chef et Thomas Grenon vont monter planter un arbre maintenant. Donc, si vous voulez les suivre, vous pouvez sortir soit par en haut, soit par en bas. Hein, nous allons y aller. Merci. Qui je donne ça ?